Mesdames et messieurs, bonjour, buenos dias. Je suis Karen El-Kaïm et je suis ravie de vous accueillir ce matin en compagnie de trois auteurs et un traducteur qui est également avec nous pour ces chronologies d'adolescence dont nous allons parler. Tout le monde entend bien ? Parfait. Donc je vais d'abord vous présenter nos trois auteurs que vous avez déjà lus, mais comme ça vous en savez un petit peu plus sur eux. Donc Marin Fouquet voit le jour en 1991. Après des études aux Beaux-Arts à Cergy, il s'installe à Paris où il multiplie les activités, que ce soit le chant lyrique ou la boxe. Il anime également des ateliers d'écriture, compose du rap, de la poésie, des nouvelles et des performances scéniques. Son premier roman, je vais le dire à la belge, 77, mais c'est 77 à la française, aux éditions Actes Sud, porte le nom de cette zone départementale qui ressemble à un no man's land dans lequel se perd un groupe de jeunes qui ne demandent qu'à s'aimer, se comprendre, s'épanouir et exister. À mes côtés également Mathieu Palin qui naît à Ris-Orangis. En 2011, il atterrit dans le milieu du sport et du journalisme. Un stage à Libération lui met le pied à l'étrier, lui qui aime le terrain. Travaille également dans les revues 21 ou 6 mois. Il y a notamment contribué aux ateliers alternatifs à la prison. Un parcours et des enquêtes qui lui ont inspiré un premier roman qui s'appelle « Sale gosse » aux éditions de l'Iconoclaste. Parmi ces, ce sale gosse étant Wilfried, qui est le fruit d'une mère jeune et toxicomane et d'un père alcoolique violent. Placé en famille d'accueil, il est animé par une colère qui va exploser à l'âge de 16 ans. Comment faire en sorte qu'il ne reste pas coincé dans cette spirale? Enfin, à mes côtés, Agustín Márquez, qui a bravé tous les interdits pour être avec nous aujourd'hui. Il a poussé son premier cri à Madrid en 1979. Il est devenu ingénieur en télécommunication après des études et des recherches en art, culture et littérature. Après avoir contribué à plusieurs anthologies, il a créé sa propre maison d'édition qui s'appelle La Navaja Suiza, le couteau suisse. Et lui-même a donc écrit son premier roman qui s'appelle La Última Vez que fui ayer aux éditions Vandaya. En français, ça donne La dernière fois, c'était hier. On peut le traduire. La dernière fois que c'était hier. Heureusement que Emilio Pladias est avec nous. Et donc, c'est l'histoire et ça s'ouvre sur l'accident qui emporte le garçon A. Un drame qui va faire écho à un quartier plongé depuis trop longtemps dans la misère, la violence, et ce, malgré une promesse de progrès. Alors, ce qui vous unit d'abord tous les trois, avant tout, c'est évidemment l'écriture. Marin, votre narrateur, aime les mots. Comment est né votre amour des mots ?
Bonjour, déjà. Merci d'être là tôt le matin. Comment est-ce que mon amour des mots, comment ? Je crois, parce qu'à la maison, mes parents écoutaient de la chanson française, donc je pense que ça vient vraiment de là. Et ensuite, j'ai écouté toujours en français du punk, beaucoup de punk, et mon amour des mots vient aussi de là, je crois, et ensuite le rap. Et il s'est vraiment ancré dans le rap, et qui a une richesse de langue et qui m'a porté. C'est ce truc des mots qui s'ancrent dans notre tête et qui au fur et à mesure nous habitent, nous hantent. On se met à retenir des bouts de phrases, on se met à retenir des textes entiers et on devient une espèce de bibliothèque orale à soi tout seul.
Et est-ce que vous diriez que l'amour de la littérature, de l'écriture, peut faire référence à une métaphore qui est dans le livre et qui concerne votre personnage, à savoir une capuche, une armure et un abri dans l'abri?
Oui, effectivement, lui, il est sous une capuche, sous un abri, et puis il y a tout le poids des non-dits, le poids du silence qui se pose sur cette armure. Oui, c'est essayer de trouver des mots pour pointer les choses et pour mieux du coup les comprendre, peut-être les désamorcer avant qu'elles nous explosent au visage.
C'est le problème de votre héros qui, lui, n'a pas les mots au départ, qui a beaucoup de choses en lui. Et vous, d'où vous est venu l'amour ou le goût de la lecture et de l'écriture?
Bonjour, pareil, merci d'être là. Moi, je vais avoir la même réponse que Marin, parce que les mots sont venus d'abord par le rap français. Et encore aujourd'hui, je dirais qu'ils viennent principalement de là. La littérature, c'est encore un mot avec lequel j'ai un peu de mal, parce que pour moi, c'est une notion un petit peu floue. Disons que la lecture, elle est arrivée très très jeune, parce que j'ai beaucoup lu à l'âge où on apprend à lire, entre 6 et 10 ans, où on commence à s'autoriser à lire des vrais livres. Mais après, j'ai complètement arrêté, comme plein de jeunes, peut-être un peu comme le héros de mon livre, qui est dans autre chose au moment de l'adolescence. Et du coup, j'ai repris la lecture assez tard, vers 21-22 ans. Et parce que justement, je me suis autorisé à pousser les portes d'une librairie alors que je l'avais jamais fait. Donc c'est quelque chose qui est arrivé tardivement, je dirais. Mais par rapport au héros du livre qui, lui, n'a pas les mots, c'est un peu... c'est très banal, en fait, comme adolescence, dans le sens où on arrive au collège, on a envie de se créer aussi une identité par rapport au reste du groupe, et ça passe rarement par la littérature. Enfin, c'est pas vraiment là-dessus qu'on se définit quand on a 12, 13, 14 ans, quoi.
Agustine, est-ce que vous vous reconnaissez dans ce qu'ils viennent de dire? Et vous, comment est né cet amour de la littérature et en quoi ça vous a ouvert de nouveaux horizons? Vous pouvez parler, pardon, dans le micro.
Bonjour, merci. Creo que el amor a la literatura nace como nace el amor hacia una madre, hacia un padre, hacia una persona. Es una forma de vida.
Alors, l'amour pour la littérature naît un peu de l'amour au père, à la mère, vers d'autres personnes.
C'est une forme de vie et c'est une passion qui t'accompagne à lo largo de los años. En mi caso, todavía más porque yo tengo una carrera de ciencias.
Alors, c'est une façon de vivre et pour lui c'est encore plus particulier parce qu'il a des études scientifiques.
C'est une carrière de sciences où les personnes sont bastante robots, con lo cual la literatura te da esa pasión o esa humanidad que a veces se pierde en este tipo de ciencias, digamos.
Donc dans ce cursus scientifique, les gens sont un peu comme des robots d'une certaine manière, et justement la littérature, ça lui permet un petit peu d'échapper à cette idée-là et de l'humaniser un peu.
Pero en resumen, el amor a la literatura y a las palabras es una forma de vida. Es como preguntarte por qué quieres a tu pareja o a tus hijos.
C'est un peu une façon de vivre, c'est comme se demander pourquoi on aime son conjoint ou sa conjointe. Et, voilà.
Surtout quand elle est là.
Surtout quand elle est là.
Marin, dans ce roman, vous avez voulu faire naître une voix assez forte pour exister. Comment est née votre voix et comment vous l'avez trouvée, que ce soit dans la poésie, le rap, le chant ou l'écriture romanesque?
Et j'ai tout d'abord commencé par écrire des chansons quand j'étais adolescent. Et comme dans les chansons, il y a le refrain qui empêche de dire pas mal de choses parce qu'il revient. Et puis sur 3 minutes, ça en éjecte quasiment une. Je me suis mis à écrire du rap. Et ça me permettait de dire plus de choses. Et le rap, c'est un sacré travail d'orfèvre. Et il y a la mesure à respecter. Et je la débordais toujours. Donc j'ai commencé à écrire de la poésie. je me suis rendu compte au bout d'un moment que rares sont les personnes qui lisent de la poésie contemporaine aujourd'hui. Et donc j'avais envie d'avoir des retours, donc j'ai commencé à me dire bah, il va falloir les lire. Je me suis mis à les lire. Malheureusement, quand on est un jeune écrivain, qui est-ce qui veut bien nous faire de la place? Où est-ce que c'est? Bah, c'est dans la rue, dans des bars, dans des squats, dans des premières parties de concerts ensuite, de rap parfois, mais surtout de punk. Et donc j'ai commencé à devoir chercher une manière pour attraper les personnes. Parce que lorsqu'on est à un concert de punk, les gens ne sont pas venus pour écouter un texte de poésie. Donc il a fallu jouer un peu des coudes et jouer un petit peu de la voix. Et c'est là où j'ai commencé à trouver des manières d'écrire, une manière d'attraper systématiquement l'oreille. Et comme je me cassais systématiquement la voix, parce que j'y allais beaucoup trop bêtement et virilement, un jour je me suis dit, bah, c'est plus possible, il faut que je prenne des cours. Donc j'ai pris des cours de chant lyrique. Au début, c'était juste pour 10 cours, juste pour savoir ne pas me casser la voix. Puis j'ai adoré, étonnamment, alors que c'est pas du tout mon milieu, je connaissais rien de tout ça. Et j'ai adoré. Ensuite, j'ai fait deux ans et demi de conservatoire. Et voilà, c'est comme ça que ça s'est enrichi au fur et à mesure, en fait.
Mathieu, vous, en tant que journaliste, vous avez plutôt tendance à donner la voix aux autres. Ça vous permet aussi de voir à quoi ressemble la réalité, comme vous l'avez écrit. Quelle réalité est-ce qu'on peut explorer par la voix romanesque et pourquoi est-ce qu'à un moment donné, vous avez eu besoin d'exprimer votre propre voix?
En fait, le roman, c'est, par rapport au journalisme, c'est une liberté supplémentaire. Parce que bon, moi, j'ai été un jeune journaliste qui avait beaucoup de chance parce que j'ai commencé à Libération, j'avais pas de poste fixe, mais je bossais pour plusieurs services, donc j'avais déjà pas mal de liberté. Et après, quand j'ai été embauché à la revue 21, c'est un journal qui est un peu particulier, je sais pas si vous connaissez, mais c'est des articles très longs, comme on le faisait il y a presque 100 ans. C'est-à-dire on envoie quelqu'un sur le terrain et puis on lui fait confiance. On se dit pas, va nous chercher l'info qui correspond à la dépêche AFP. On dit, bon, si tu as une idée, vas-y. Et puis dans un mois, tu reviendras avec une histoire à nous raconter. Donc ça m'a déjà pas mal formé à écouter le terrain plutôt que d'aller chercher sur le terrain ce que mon rédacteur en chef m'aura mis dans la tête, ce qui est déjà une manière d'approcher l'information qui est complètement différente. Mais le roman est arrivé finalement presque malgré moi, c'est-à-dire que j'étais parti sur le terrain. En l'occurrence, j'avais intégré une équipe de la protection judiciaire de la jeunesse qui sont, pour ceux qui ne connaissent pas, ce sont des éducateurs qui bossent principalement sur la délinquance des mineurs. Et leur mission est de remettre un peu dans le droit chemin des jeunes qui ne vont pas bien avant qu'ils aient 18 ans ou 19 ans et que finalement, ils basculent de l'autre côté, c'est-à-dire la justice des majeurs. Et c'était un sujet qui m'intéressait pour plein de raisons. Et donc, j'ai demandé à intégrer ce que je faisais tout le temps pour 21, en fait. Je demandais d'intégrer une équipe et de pouvoir la suivre sur un mois. Parce qu'en général, en un mois, vous avez à peu près le temps de... Pas d'embrasser tout le sujet, mais de savoir un peu de quoi vous parlez, quoi. Et au final, au bout d'un mois, j'étais un peu frustré. Je me disais, c'est bien, t'as une vision de la chose, mais c'est dommage. C'est pile au moment où tu commences à vraiment nouer des relations avec les gens que tu dois t'arrêter. Donc finalement, je ne me suis pas arrêté. Je suis resté un mois supplémentaire et un mois encore supplémentaire. Et puis, au bout de 6 mois, j'avais plus du tout envie d'écrire d'articles. Et je me suis dit, bon, la matière est telle qu'il faut en faire quelque chose. Et je me suis rendu compte que finalement, l'histoire que je voulais raconter, elle était plus exactement celle que j'aurais pu raconter si j'avais écrit un article, mais elle était légèrement modifiée, avec un héros, ce qui est rare quand même dans les articles, d'avoir un vrai héros qu'on fait vivre sur plusieurs années. Et voilà, ça s'est fait un peu petit à petit comme ça. C'est-à-dire que j'avais un personnage qui était un personnage réel, qui s'appelle pas Wilfried dans la vraie vie, mais que j'ai suivi sur le long terme. son éducatrice qui s'appelle Nina dans le livre et qui s'appelle pas Nina dans la vraie vie et qui, pour le coup, est une personne extraordinaire que j'ai pas eu besoin de modifier parce qu'elle était sous mes yeux et que je la trouvais déjà parfaite comme ça. Mais après, à la marge, pour faire vivre ces personnages-là, il a fallu que j'utilise la fiction et c'est en ça que, en tant que journaliste, j'appelle ça de la triche parce que on modifie légèrement le réel pour qu'il corresponde à ce qu'on a envie de raconter, ce qui est quelque chose de complètement interdit dans le journalisme. C'est-à-dire que bon, c'est un métier qui régit par pas mal de chartes et de principes de base et on ne modifie pas le réel. Et là, le fait de m'autoriser à le faire, ça a été d'un coup un appel d'air à beaucoup, beaucoup de choses et une vraie liberté. Ouais.
Agustine, au sein de la maison d'édition que vous avez fondée, vous donnez une voix aux autres. Là aussi, pourquoi vous avez ressenti le besoin un jour d'exprimer votre propre voix romanesque ?
A través de tu editorial tienes la oportunidad de dar la voz a muchos otros y por qué un día te decidiste dar la tuya.
Como comentaba antes, para mí escribir la literatura es una forma de vida. Llevo escribiendo desde pequeño.
Comme il l'a dit avant, l'écriture c'est une façon de vivre. Il écrit depuis qu'il est tout petit.
Y hubo un momento en mi vida en el que consideré que necesitaba contar algo relacionado con mi barrio.
Et un jour dans sa vie, il a eu besoin de raconter quelque chose qui était en relation avec son quartier, el barrio.
Y es que cómo el progreso había contaminado o había cambiado ese lugar en el que yo había crecido y me había formado.
¿Cómo de raconter cómo el progreso había modificado ese endroit en el que él había grandi y había vécu?
Creo que la etapa más, o las dos etapas más importantes de nuestras vidas son la infancia y la adolescencia. Y mi infancia y mi adolescencia yo la pasé en ese barrio, crecí en ese barrio.
Il pense que les deux périodes les plus importantes d'une vie, c'est l'enfance et l'adolescence. Et justement, c'est ces moments-là qu'il, lui, il a passé dans son quartier.
Y quería contar a la gente, de alguna forma, mi opinión o mi visión sobre lo que ha hecho el progreso en esos barrios pequeños y obreros.
Et il voulait raconter justement ce que le progrès avait modifié dans ces quartiers, dans ces petits quartiers, des quartiers ouvriers.
On en reparlera parce que justement vous introduisez ce thème des lieux qui sont différents dans vos trois romans et qui néanmoins se rejoignent. Le vôtre, Marin, se déroule donc dans le silence du sud 77. C'est bien comme ça, dans chaque pays on le dira autrement. Pourquoi est-ce que vous diriez qu'au-delà d'un lieu, c'est véritablement un personnage à part entière ?
Pourquoi est-ce que le 77, le 77 est un personnage à part entière ? En fait, quand j'ai voulu écrire un roman, donc passer de la chanson, du rap, poésie et roman, je me suis posé la question de ma légitimité. Qui j'étais, moi ? Pour écrire, sur quoi est-ce que je pouvais parler de la manière la plus juste ? Et c'était de là d'où je venais, donc le 77, et là où j'étais pas très avancé. Je sais pas si vous connaissez le 77. Oui, il y en a. Oui, je vois quelques airs un peu traumatisés du 77.
On peut peut-être le rappeler en quelques mots.
Oui, le 77, c'est la Seine-et-Marne. La Seine-et-Marne, donc une banlieue lointaine de Paris. Si on peut appeler ça une banlieue, c'est ni la ville, ni la campagne, c'est pas assez la ville, pas assez la campagne, c'est de la boue, c'est des bâtiments construits parfois en zone pavillonnaire, d'autres un peu plus vieux, c'est beaucoup de... Moi, quand j'étais jeune, c'était beaucoup de personnes, comme on disait, le club du troisième âge, des personnes du troisième âge. Aujourd'hui, ça devient de plus en plus village dortoir. C'est pas ville dortoir, c'est village dortoir. Il y a des choses qui se construisent. Les gens vont travailler sur Paris. C'est une espèce de zone de transit, en fait, entre le huis clos familial et le travail. Et donc, j'étais pas avancé parce que je me disais, en fait, le 7-7, c'est rien. c'est à moitié de tout. C'est entre deux eaux, entre deux chaises. Et quand je réfléchissais, je me disais, mais mes souvenirs de 7-7, c'est quoi? Bah, c'est l'ennui. Donc là non plus, je n'étais pas plus avancé. Ça n'allait pas être un livre très, 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 très dynamique. Et donc, il a fallu, au fur et à mesure, que face à cette jeune personne, sous sa capuche, sous son abribus, dans sa tête, il fallait qu'en face de lui, il y ait le paysage qui émerge, il y ait cette boue qui se soulève, et que lui aussi, en quelque sorte, sa voix s'élève en même temps que ce paysage se mette en mouvement. Et donc, je crois que c'est en ça que c'est un réel personnage, le 7-7, parce qu'il est peuplé d'ennui, et pour faire passer l'ennui, il faut le peupler un maximum, quoi.
Mathieu, une partie de l'histoire se déroule dans une cité. Là aussi, pourquoi est-ce qu'elle déteint? Pourquoi est-ce qu'elle va façonner ceux qui tentent d'y survivre?
En fait, quand on se met à écrire, on ne peut pas vraiment se départir de ce qu'on est et de ce qu'on connaît. Moi, j'ai grandi là-bas et j'en suis parti assez tard. À plus de 22 ans, dans cette ville qui s'appelle Ris-Orangis, qui est dans une zone urbaine, qui est très urbaine pour le coup, qui n'est pas très loin d'ailleurs du 77, c'est quelques dizaines de kilomètres, même pas, mais pour le coup c'est beaucoup plus urbain, et c'est des villes qui sont assez stigmatisées en général. Vous connaissez peut-être des noms comme Corbeil-Essonnes, Grigny, Ris-Orangis, Sévry. Voilà, c'est des villes dont, en général, on entend parler pour de mauvaises raisons. Moi, j'avais un problème en tant que journaliste, c'est que, si vous voulez, je suis né en 88. En 2005, quand il y a eu ce qu'on appelle les émeutes de banlieue, j'étais à Ris-Orangis. J'avais un hélicoptère qui tournait au-dessus de mon immeuble. Et j'allumais la télé, je voyais des journalistes, donc qui, je ne savais pas à l'époque, mais deviendraient probablement mes confrères ou peut-être même mes collègues, qui faisaient des duplex, exactement comme là je suis en train de vous parler, avec un micro et un gilet pare-balles, devant un plan de poubelle en flammes. Enfin, vous voyez ce genre de plan. Et je vivais, moi, en tant que lycéen de 15-16 ans à l'époque. Et ce que je voyais à la télévision n'avait strictement rien à voir avec ce qu'on vivait. C'est-à-dire que vous pouvez tout à fait prendre une photo, un plan d'une voiture en flammes. Ce que va recevoir le téléspectateur, c'est de la violence, une extrême tension, presque une scène de guerre. D'autant plus si le mec qui est en duplex porte un gilet pare-balles. Ce que nous, on vivait, c'était totalement différent. Et du coup, quand je suis devenu journaliste, j'avais quand même cette... C'était pas vraiment un objectif, mais je me disais... J'ai la chance, peut-être par rapport à d'autres, de savoir que la vérité est dans la nuance, notamment dans ces quartiers, et est beaucoup plus complexe que ce qu'on peut raconter en quelques lignes ou en quelques minutes. Donc je vais le raconter. Sauf qu'en fait, c'est très compliqué de raconter le quotidien dans ces quartiers, parce qu'il ne s'y passe rien d'exceptionnel, justement. Il ne s'y passe que la vie normale. Et d'un point de vue journalistique, la normalité, le banal, n'a aucun intérêt. C'est-à-dire qu'on ne va pas envoyer un journaliste pour raconter quand il n'y se passe rien. Donc moi, quand j'étais à 21, j'avais quand même cette chance déjà d'être sur un rapport qui était un peu décalé. Donc j'ai essayé, j'ai fait pas mal de reportages pour raconter la banlieue quand elle ne brûle pas. Mais j'avais cette frustration quand même de ne pas réussir moi-même non plus à vraiment raconter ce que j'avais envie de raconter. Et je me suis rendu compte, mais c'est maintenant que le livre est terminé et que j'ai un peu de recul là-dessus, que je m'en rends compte, mais ce n'était pas vraiment conscient quand je l'écrivais. Mais je pense qu'en écrivant ce livre, j'ai un peu raconté cette ville et l'ambiance qui peut entourer ce genre d'environnement quand on est un adolescent. Et c'est finalement ce que j'avais envie de raconter depuis assez longtemps, quoi. Parce qu'en tant qu'ex-adolescent grandi là-dedans, je ne pense pas que ce soit un livre, par exemple, qui raconte vraiment la violence de l'environnement. C'est plutôt la violence intérieure du gamin. Et ça, c'est une violence qu'on peut retrouver n'importe où, à Chambéry comme à Marseille ou dans les beaux quartiers de Paris. Il y a des gamins qui ne vont pas bien et ça, c'est pas lié forcément ni à la banlieue, ni aux cités, ni à l'immigration, ni à ce qu'on veut, quoi. Et ça, c'était compliqué de le raconter autrement.
Mathieu nous parle de ce quartier dans lequel il a grandi. Vous le disiez également, Agustine, que ça concerne celui où vous avez vécu et qui figure dans ce livre. Vous le décrivez à une période particulière, à savoir les années 80 et 90. En quoi ces années-là en Espagne et particulièrement dans ce quartier-là ont été déterminants et en quoi là aussi ça a déteint sur les êtres qui habitent ces lieux?
Como Mathieu, tú también cuentas la vida en ese barrio, pero lo haces en fechas concretas, en los años 80, 90, y cómo ha influido esto en
comment il déteint sur les habitants.
Vale, y cómo esto pues influye directamente en los habitantes.
En la novela quería hablar de un tema muy concreto, que era el progreso.
Qui voulait parler d'un sujet bien concret qui était le progrès.
Entonces, yo el progreso lo sitúo en el año 92 en España, que es cuando se produjo la Expo del 92 y las Olimpiadas de Barcelona.
Et c'est pour ça que l'année 1992 est importante, parce qu'en Espagne, c'était une année un peu charnière avec les Jeux Olympiques de Barcelone en 92 et l'Expo de Séville en 92.
Digamos que en ese momento fue cuando España parece que ya entró en Europa por la puerta grande.
C'est un moment charnière parce que c'est à ce moment-là qu'en fait l'Espagne a donné l'impression qu'elle rentrait pleinement en Europe, qu'elle passait une porte.
Y esto influyó tanto en las ciudades como las personas, porque se invirtió mucho dinero público y privado en infraestructura y viviendas.
Et tout l'argent investi dans les infrastructures a forcément eu de l'influence sur les gens et sur ces quartiers.
Este cambio fue muy rápido y algunas personas pudieron adaptarse a este cambio, pero otras no tuvieron esa capacidad de adaptación.
El changement était rapide et donc certaines personnes ont réussi à s'adapter, mais d'autres sont restées sur le côté de la route.
Por ese motivo hubo barrios como el de la novela, donde se ve que personas se adaptan y hay personas inadaptadas. De alguna forma el progreso arrolló a estas personas inadaptadas.
Y donc como on le voit dans son roman, il y a effectivement des personnes qui ont su s'adapter à ce changement, d'autres qui sont restées sur le côté de la route, et comment un peu le progrès a écrasé tout ça sur son passage.
Marin, dans votre roman, on a à la fois ce parallèle entre un territoire désolé, une jeunesse qu'il est également. Pourquoi est-ce que c'est le reflet d'une certaine France, comme le disait Mathieu, qui figure rarement dans les médias, qui ne les intéresse pas et qui dès lors peut apparaître dans un roman?
Pourquoi est-ce que ça ne figure pas dans les médias? Je pense que Mathieu le sait mieux peut-être parce qu'il y a travaillé.
Quand on entre en école de journalisme, on dit qu'on ne parle que des trains qui arrivent en retard. Les trains qui arrivent à l'heure ne nous intéressent pas et c'est un peu le cas en général dans ces zones-là, je pense. C'est que s'il ne s'y passe rien d'extraordinaire dans le sens sensationnel du terme, aucun rédacteur en chef enverra un journaliste couvrir la banalité du quotidien, je pense.
Je pense que c'est au-delà de ça, parce que je suis journaliste aussi, je trouve que justement, il y a une volonté des médias de ne pas voir cette France-là, peut-être, que vous décrivez, et qui reflète cette jeunesse désabusée qu'on ne présentera pas forcément comme telle.
Oui, j'essaie de connecter mes neurones.
Sinon, revenez peut-être juste à ce parallèle entre cette zone qui est voilà pas désertée, mais qui justement est habitée par le côté des abusés qu'a aussi ces jeunes, cette bande que vous nous décrivez.
Mais j'ai l'impression, enfin, ce côté des abusés, j'ai l'impression que c'est, enfin, en tout cas moi, c'est quelque chose qu'on m'a beaucoup répété quand j'étais môme. Je me rappelle d'un prof de sport au collège qui nous disait, vous êtes une génération sacrifiée. Il disait, on a eu les Pink Floyd, on a eu la chute du mur, on a eu Nirvana, on a eu l'homme qui a marché sur la lune, on a tout eu, et vous, bah, vous avez quoi? Vous avez votre rap, c'est pas trop de la culture ça, et puis vous avez, génération sacrifiée. Et moi, c'est un truc qui m'était beaucoup resté, ce truc-là. C'est marrant, je viens de Marseille puisque je présentais le livre à Marseille hier soir, et à Marseille est sortie une compile de rap qui s'appelle Très Organisé et qui est sortie hier. Je l'écoutais sur le chemin là, vers Chambéry, et il y a un des rappeurs, Jules, qui a une phrase, il dit au début on n'avait pas d'avenir, ça a changé. Moi ça me parle vraiment, ce truc là au début on n'avait pas d'avenir, et ça résonne vraiment avec ce génération sacrifiée. Alors que ce que se rendait pas compte ce prof de sport et peut-être bien d'autres personnes, c'est que on était en fait la génération charnière, parce que Internet arrivait pile poil au moment où on était en âge de se le prendre en pleine face. On a été ceux qui ont expliqué à nos parents comment brancher le modem. On a été ceux qui ont eu le droit au éteint ton Internet, il y a ta tante qui appelle. Et on a donné toutes nos informations sans même y réfléchir à des trucs comme Facebook, à des trucs comme MSN. On a tout donné, nom, prénom, état civil, carte de crédit, tout. Là où je crois, en faisant pas mal d'ateliers avec des plus jeunes générations, ils ont comme eux, ils sont nés avec, mais nés avec, c'est-à-dire que c'était déjà en place. Ils ont un avis, déjà, à la fois leur rapport à leur image est très différent, et en même temps ils sont vraiment lorsqu'il y a des événements comme la mort de George Floyd aux États-Unis sur TikTok, clac, ça leur arrive direct, ils sont au courant en premier des messages militants de militants américains, clac, et d'un seul coup ça travaille dans leur tête, des messages féministes, clac, et d'un seul coup ils l'intègrent. Et aussi ils ont un avis bien plus critique sur Internet et sur aussi les médias, les anciens médias, sur la télé, sur les journalistes, sur comme ça, ils ont déjà plein de... Voilà, nous, on était en fait cette génération charnière qui n'était pas sacrifiée, en fait, je crois. Et moi, c'est aussi de ça, plus je crois que je parle aussi. Donc, je parle.
Agustin, le quartier que vous décrivez peut aussi faire écho à celui qui figure dans le roman de Marin, à savoir ce quartier et ses personnages qui évoluent constamment à la périphérie. Pourquoi est-ce que ça donne un autre regard sur le monde quand on vit en périphérie de la sorte, quand on est en marge du monde ?
¿Por qué el hecho de vivir en la periferia da otra visión del mundo? Y sí, así.
Bueno, porque la periferia es otro mundo. Y voy a poner un ejemplo.
Parce que la périphérie, c'est un autre monde, y justement, il va donner un ejemplo.
Creo que fue en 1848, encargaron a un arquitecto, que no recuerdo el nombre, que cambiase radicalmente París.
Alors, il fait référence donc à l'année 1848 quand on a donné à un architecte pour mission de changer Paris.
Et le grand cambio de cet architecte fue la création de los boulevards que actuellement existent en Paris et qui vont surtout desde el centro hacia la periferia.
Et donc, ça a eu pour conséquence donc, le changement et la création de ces grands boulevards qui vont du centre vers la périphérie.
Estos boulevards tenían un doble objetivo. Un primer objetivo es que los ricos no se cruzasen con la gente pobre de la periferia.
Avec un double objectif, donc que les riches ne soient pas en contact direct avec les pauvres de la périphérie.
Y el otro objetivo era que la policía pudiese llegar rápidamente del centro donde protegían a los ricos a insurrecciones, a las insurrecciones de la periferia.
Et donc le deuxième objectif, c'est que la police puisse arriver rapidement en périphérie pour empêcher ou pour limiter les insurrections et protéger donc les riches.
Con lo cual, la visión que puede tener una persona que viva en el centro de una ciudad o en la periferia siempre va a ser diferente porque son mundos diferentes, tienen reglas diferentes.
Et donc, par conséquent, une personne qui vivra au centre d'une ville aura forcément une vision différente de celle qui vit en périphérie parce que, tout simplement, ce sont des règles différentes.
Mathieu, est-ce que vous diriez que votre roman reflète aussi une réalité sociale, une réalité qui fait partie de ce monde-là qu'on n'évoque pas forcément, et où, comme vous l'écrivez à un moment donné, les pauvres restent pauvres. Est-ce qu'il y a aussi un sens de la fatalité dans ces lieux-là?
Je dirais que parfois, les jeunes, et quand je dis jeunes, je dirais c'est dans l'adolescence parfois qu'on se rend compte aussi de réalités qui nous dépassent. Et le livre, il est énormément nourri de réflexions qui ne sont pas forcément les miennes, mais que finalement j'embrasse complètement, qui sont celles des gamins que j'ai suivis pendant ces mois d'immersion avec la PJJ. Et c'est vrai que c'était parfois déchirant de réalité quand je voyais un gamin de 16 ans ou 17 ans qui se rendait compte, finalement, en regardant un peu l'histoire familiale, en regardant tout simplement l'histoire de sa mère, celle de sa grand-mère. Et il y avait une espèce de c'était pas possible de nier la reproduction, parfois des erreurs ou tout simplement la reproduction sociale des parents pauvres qui font des enfants pauvres, qui font eux-mêmes des enfants pauvres. Et finalement, peu importe ce qu'on va vous dire à l'école, il faut bien travailler ou il faut préparer ton orientation, réfléchir au métier que tu veux faire plus tard, il y a quand même une réalité qui est que on n'est pas... Je ne dis rien d'extraordinaire en disant ça, mais c'est vrai que ça saute aux yeux, notamment à l'adolescence. On n'est pas sur la même ligne de départ. Et ça, raconter l'histoire d'un gamin qui va mal, c'est aussi raconter un peu ça. Même s'il y a des gamins qui vont mal dans tous les quartiers et aussi chez les très riches. Mais c'est vrai que moi, je voulais raconter l'histoire de Wilfried. Et Wilfried, c'est un enfant qui va mal, pas uniquement parce qu'il a décidé d'aller mal ou parce qu'il se perd dans son adolescence, mais parce qu'il porte sur lui, sur ses épaules, sans le savoir, l'histoire de sa mère, de son père, de tout un tas de secrets de famille aussi qui n'ont pas été dits. Et ça, ça pèse. Et c'est une reproduction qui se voit énormément. Vous allez vous pousser la porte d'un... C'est interdit, mais en tant que journaliste, moi, j'ai eu la chance de pouvoir le faire. Vous poussez la porte d'un tribunal pour enfants, vous vous asseyez, vous regardez passer les affaires. Bon, bah, c'est, vous en sortez de là en vous disant, bon, bah, j'ai vu que des gamins qui n'ont pas eu de chance. Pas des gamins qui vont pas bien, des gamins qui même psychologiquement, ont des problèmes, se battent contre eux-mêmes, qui s'en sortent pas et tout. Mais quand on commence à regarder, ouvrir les dossiers, et c'est ce qu'on fait à la PJJ notamment, avant de commencer à dire, bon, bah, ce gamin, il a braqué une poste. Ou, d'abord, on dit, mais qui est le père? Qui est la mère? Et qui sont les grands-parents? Et on voit que y a une grande, grande, grande misère. Et ça, c'est difficile de le nier. Donc, c'est aussi pour ça que dans le livre, je trouvais intéressant sans que ce soit un tract politique, tout simplement de le raconter, quoi, parce que ça me sautait aux yeux.
Ce qui est intéressant, vous l'avez évoqué, Agustín, c'est aussi ce paradoxe qui figure dans votre roman, à savoir qu'a priori, ce quartier et cette époque que vous décrivez est celle du progrès, et néanmoins, on assiste peu à peu à la destruction d'un monde et non pas à quelque chose qui aurait pu les élever. Pourquoi vous aviez envie d'explorer ce paradoxe?
La paradoja de tu novela es que describes una época en el que el progreso llega al barrio, pero en realidad en vez de elevarlo, lo destruye. ¿Y por qué tenías ganas de construir tu novela alrededor de esa paradoja?
me interesaba la me interesaba que se viese la visión de que progreso no es sinónimo de crecimiento o de positividad.
Il voulait montrer déjà d'abord que le progrès est pas forcément synonyme de positivité.
Entonces quería escribir sobre personas y sobre barrios que el progreso cambió el espacio y cambió las posibilidades de algunas personas, pero no de todas.
Et il voulait raconter qu'effectivement le progrès avait changé le destin de certaines personnes, mais pas de tout le monde.
Se suele confundir el progreso con bonanza y no es así. Voy a poner otro ejemplo. Por ejemplo, en el porcentaje de personas que leían en la época griega es mayor que el porcentaje de personas que leía en la Edad Media. Y no podemos negar que ahí hay un progreso.
Il voulait montrer qu'effectivement le progrès n'est pas forcément synonyme d'abondance, et pour ça il illustre avec un exemple. Pendant l'Antiquité grecque, on lisait plus que maintenant, et ça on peut pas nier que c'était un progrès.
Entonces el progreso hoy en día es positivo desde un punto de vista utilitarista o económico, pero no desde un punto de vista social para todo el mundo.
Donc le progrès effectivement est une avancée d'un point de vue utilitariste et économique, mais pas forcément d'un point de vue social et pour tout le monde.
Mara, dans votre roman, il y a aussi les remerciements tout à la fin. Pourquoi est-ce que vous remerciez toutes les personnes qui doivent chaque jour lutter pour simplement être ce qu'elles se sentent être? Parce que c'est quelque chose qui apparaît là aussi dans vos trois romans.
Déjà parce que je voulais resituer, c'était un peu un travail d'honnêteté, ces remerciements. C'était resituer qui j'étais, moi, d'où j'écrivais. Et parce que ce roman n'a rien d'autobiographique. Les lieux, c'est effectivement les lieux où j'ai grandi. Le nom des lieux sont inchangés, mais tout le reste, c'est de la création, c'est de la fiction. Et je voulais surtout pas, comment dire, comme certains auteurs, très souvent auteurs, pas autrices, le font, s'arroger comme ça la part belle de la misère. Et en devenant porte-parole de quelque chose, s'asseoir dessus. Et il y a réellement des personnes qui, n'étant pas des hommes, blanc, hétéronormé, qui en fait commence. Mathieu parlait de ligne de départ et commence à une ligne de départ encore plus que au loin, retenue par des espèces de chaînes. Et donc oui, je voulais dédier ce livre à toutes ces personnes qui réellement ont à lutter pour ces choses-là. Moi, j'ai eu à lutter pour mes propres choses, mais qui, en plus d'être sur une ligne de départ en retard, doivent s'enlever les espèces de crocs, là, comme à la chasse, là, les crocs aux loups, avant de pouvoir partir.
C'est également le cas de votre héros, Mathieu. Et il y a cette phrase, à un moment donné, qui est bouleversante, où quelqu'un lui dit « Will, n'oublie pas que le foot, ce n'est pas ton métier. Ton métier, c'est d'être un enfant. » Pourquoi est-ce qu'il a tant de mal à être un enfant quand dès le départ, comme ça, tout semble ligué contre lui, quand dès le départ, il est en mal d'identité parce qu'il ne sait pas trop d'où il vient et qui il est?
C'est ce qui me, encore une fois, c'est ce qui m'a le plus sauté au visage, aux yeux, en passant autant de temps avec la PJJ, c'est que la délinquance, c'est la conséquence finalement d'un mal-être. C'est-à-dire qu'on se met pas, rarement les gamins qui se réveillent le matin en se disant tiens, j'ai envie de péter la gueule de mon prof de français ou de me battre à coups de crampon sur un terrain de foot avec un mec que je connais pas. Il y a peut-être des psychopathes dans cette société, mais ils sont très très rares. L'immense majorité des gamins qui délinquent, comme on dit, sont des enfants qui vont pas bien. Et ils vont pas bien pour plein de raisons, on en a cité quelques-unes, mais du coup, en effet, ça vient en général de ces questions qu'on se pose et pour lesquelles on n'a pas toujours de réponse. Et qui suis-je? Qui sont mes parents? Quel sera mon avenir? C'est des questions qui bouleversent tous les adolescents du monde, mais quand il y a des trous dans la raquette, quand on n'a pas forcément de réponse à ces questions, quand on ne vous a pas dit qui était votre mère, ni où elle est, ni si elle est encore vivante, ni pourquoi est-ce que vous vivez avec des gens que vous appelez papa et maman, mais qui ne vous ont pas porté. Toutes ces questions-là sont des questions très très importantes, et quand vous n'avez pas les réponses, ça peut devenir problématique, notamment à l'adolescence. Donc, Wilfried, en l'occurrence, c'est ce qui va poser problème. Il ne le sait pas, il n'est pas capable de mettre les mots là-dessus, sur cette question. Mais en effet, il ne sait pas vraiment qui il est, il ne sait pas où il va, il ne sait pas non plus... l'âge adulte, pour lui, ça n'a aucun sens, parce qu'à cet âge-là, l'avenir, c'est la semaine prochaine, au maximum. C'est très, très compliqué pour lui. Et la phrase que vous avez citée, elle est là parce que lui, il est dans le football et il espère devenir, et il a les qualités, je pense, pour le devenir, mais il y a plein d'aléas qui font qu'un très bon joueur ne devient pas forcément un joueur professionnel dans le football. Mais la particularité du football professionnel, c'est qu'on demande à des gamins, et pour le coup, à vraiment des enfants, des enfants de 10, 11, 12 ans, non seulement de s'entraîner comme des adultes, mais surtout de faire des choix définitifs pour leur avenir. C'est-à-dire qu'à 13 ou 14 ans, vous êtes un peu obligé d'arrêter l'école si vous voulez y arriver. Vous êtes un peu obligé de faire une croix sur plein de choses parce que vous êtes déjà sur des rails pour devenir professionnel. Donc ça veut dire beaucoup de contraintes, beaucoup de discipline. Et l'entraîneur, qui est aussi un éducateur, qui prononce cette phrase, rappelle quelque chose d'essentiel, qui dit rappelle-toi que à 14-15 ans, tu n'as pas de métier. Ton métier, c'est d'être un enfant. Et c'est une phrase que j'ai voulu mettre dans le livre parce que pour bien connaître le milieu du football, j'y joue encore en club. Je vois des éducateurs tout autour de moi, toute la journée, qui n'ont pas du tout cette notion-là d'éducation, justement. Et le fait que les gamins qu'ils ont sous leurs yeux à l'entraînement restent des enfants. Et c'est pour ça que cette phrase est mentionnée dans le livre.
Agustine, dans votre roman, on découvre vos personnages également à l'adolescence, à cet âge très particulier. Et ils ont une particularité, c'est qu'ils n'ont pas de nom. Autant Will ne sait pas trop qui il est et d'où il vient. Là, il y a Chico Un, Chico Dos, je ne sais pas si je le dis bien. En tout cas, en français, ça correspondrait à garçon 1, garçon 2, garçon A, garçon B. Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas de nom? Pourquoi est-ce que vous les nommez comme cela?
Una particularidad de estos adolescentes que describes y de esta edad específica es que no tienen nombre, se llaman chico A, chico B, y ¿por qué?
Pues la razón nuevamente está relacionada con mi visión subjetiva del progreso.
Parce que déjà essentiellement c'est en lien avec sa vision subjective du progrès.
Y creo que el progreso lo que ha conseguido es cosificar a las personas.
Y parce que il pense que le progrès, parce qu'a fait, ce qu'a réussi le progrès en particulier, c'est à chosifier les humains.
Y por otra parte, personificar a las cosas. De ahí que los chicos tengan nombres indefinidos.
Et puis aussi, du coup, à l'inverse, de personnifier les objets. Et c'est pour ça qu'il a pris le parti de ne pas donner de nom à ses adolescents.
Marin, vous aussi, vous décrivez ces personnages à cet âge charnière où on n'est plus vraiment des enfants, on n'est pas encore des adultes. Ça signifie quoi pour eux grandir et devenir un homme, un vrai?
L'idée de grandir, elle est assez floue. Par contre, l'idée de devenir un homme à vrai, elle est très précise. Et je ne sais pas si c'est le cas pour tout le monde, mais en tout cas pour moi, ça a été vraiment le cas. C'est-à-dire, très vite, j'ai ressenti qu'on me proposait, on me proposait pas tellement que ça. Il fallait devenir un vrai bonhomme, à défaut de devenir quelqu'un. Ça se passe notamment beaucoup dans tous les rapports, mais là où c'est le plus palpable, je crois, c'est dans les vestiaires de sport. Il y a une scène dans les vestiaires du club municipal, où très vite on lui fait comprendre que s'il ne suit pas les règles du bizutage imposées, il sera pire qu'un PD, il sera une mignonne, donc une fille. Et donc ça, c'est le pire possible, parce que de toute façon, enfin, les concepts de masculin et de féminin sont construits en opposition, et lorsqu'on nous invite à devenir un vrai bonhomme, c'est pour ne surtout pas avoir la moindre porosité avec ce qu'on qualifierait de féminin, l'homosexualité étant la personnification de cette promiscuité avec le féminin, en tout cas dans un esprit viriliste et homophobe. Et je voulais traiter de ce truc-là, je voulais traiter de ces injonctions-là, parce que je crois qu'ils sont... Ils sont urgents à être explosés, totalement explosés, implosés, détruits de l'intérieur, et qu'on arrête en fait de créer cette espèce de frontière-là qui existe entre les genres. C'est le moment où j'ai lu un livre qui s'appelle King Kong Theory de Virginie Despentes. C'est aussi le moment où j'ai lu un livre qui s'appelle Refuser d'être un homme pour en finir avec la virilité de John Suttenberg, où il explique assez admirablement cette chose. En fait, John Sutterberg, donc c'est un penseur des années 70 qui est issu de l'immigration juive aux États-Unis et qui prend cette comparaison. Il dit aujourd'hui, donc c'était dans les années 70, et je pense qu'aujourd'hui c'est encore plus parlant. Aujourd'hui, on est tous d'accord, sauf quelques timbrés, que la race aryenne n'existe pas. Pourtant, à un moment donné, le Troisième Reich a voulu faire croire que des hommes grands, blonds, aux yeux bleus, étaient naturellement supérieurs. Si on réfléchit et qu'on se dit, si on imagine que le Troisième Reich ait réussi, on aurait effectivement des hommes blonds, aux yeux bleus, grands, qui auraient les postes les plus importants, qui dirigeraient les pays, qui seraient aussi certainement les seuls à vivre, mais aussi qui du coup auraient les plus gros salaires, les plus grosses maisons, et qui, pourquoi pas, auraient aussi les plus grandes performances sportives, parce que ce seraient ceux qui seraient le plus invités à le faire et compagnie. Voilà. Et il dit, en fait, le principe de masculin et féminin, c'est la même chose, sauf que ça a réussi. C'est exactement la même chose. Et il explique, il va plus loin, il dit, effectivement, dans l'anatomie, dans la nature, il existe des verges, des prostates, il existe des vagins, des vulves, mais à part ça, tout le reste n'est que culturel, dans le sens non naturel. Tout le reste est construit. Et quand j'ai lu toutes ces choses-là, en fait, je me suis pris une énorme claque. Ça, comme King Kong théorique, je vous invite, si vous ne l'avez pas lu, à réellement lire. Je me suis pris une grosse claque et en me disant, mais ah ouais, en fait, tout ce sur quoi on m'a, toutes les injonctions, on me disait, dans le sport notamment, mais aussi dans la vie de tous les jours, comporte-toi comme un homme, sois un homme, en fait, ça n'existe pas. Ça n'existe pas, c'est une création, c'est un truc totalement... Et donc tout ce que j'ai enduré en termes de bizutage, en termes de violence, ça n'existait pas. Et donc j'ai voulu montrer ce truc-là, en fait, et essayer d'apporter un micro-caillou à un mur que j'espère qui va grandir et puis qui va faire exploser le reste.
Mathieu, Agustin le rappelait, nous sommes dans une époque qui veut toujours aller de l'avant, qui veut toujours aller plus vite. Et vous mettez en exergue de ce livre cette phrase, tu vas grandir, tu vas oublier. Mais pourquoi est-ce qu'il est parfois impossible d'oublier pour avancer alors que c'est ce qu'on nous recommande tout le temps ?
La phrase qui est en exergue du livre, c'est vrai qu'elle est un peu... C'est un proverbe, en fait, que moi j'ai entendu des vieux arabes du quartier qui disaient ça, et j'avais des potes qui me l'ont confirmé, que c'était une phrase que j'avais entendue beaucoup, mais qu'en fait, qu'eux avaient entendue 1000 fois plus que moi. C'est-à-dire, c'est un gamin qui tombe dans la rue, il s'écorche les genoux, il se met à pleurer, on lui dit « Tekber ou Tensa, tu vas grandir et tu vas oublier, allez, arrête de pleurer. » Et pour mon livre, je l'ai entendu de la bouche de Hassan, il s'appelle, c'est un éducateur qui travaille vers Nevers, du coup avec des enfants qui vont pas bien, et il m'a ressorti cette phrase que j'avais oubliée, ça faisait longtemps que je l'avais pas entendue, et pour moi ça a été, je trouvais que ça collait bien en fait, parce que on demande quand même beaucoup à ces gamins de dire bon bah oui t'as pas eu de chance, oui t'as grandi dans la merde, allez bon tu vas grandir et puis tu vas oublier. Bien entendu, on n'oublie pas, et c'est vrai que cette phrase, il y a dans pas mal de rencontres en librairie, il y a quelqu'un à chaque fois qui se lève et qui dit, par contre, je suis pas d'accord. Vous dites, tu vas grandir et tu vas oublier, c'est pas vrai, on n'oublie jamais, machin. Et je dis que c'est vrai. Enfin, je suis tout à fait d'accord avec ces gens qui se lèvent et qui disent ça. C'est vrai qu'on n'oublie pas, mais je trouvais que c'était une phrase qui était à double sens et qui fonctionnait bien avec le livre, parce que c'est quand même ce qu'on demande à ces enfants-là. Oui, tu n'as pas eu de chance, mais baisse pas les bras. Tu vas grandir et puis tu verras, ça ira mieux. Donc c'est dans ce sens-là que j'ai accepté qu'on mette cette phrase sur l'espèce de bandeau.
C'est également le cas dans votre roman, Agustine, puisque le fait d'avancer continuellement sans oublier va creuser des failles à l'intérieur de certains personnages. Vous voulez qu'on traduise la question peut-être en...
También es el caso en tu novela de estos personajes que van avanzando pero sin olvidar nunca y es lo que provoca pues estas heridas.
Ça va même mener jusqu'à un drame qu'on ne va pas révéler, puisque nous, on ne peut pas encore le lire en français. Donc, je ne vais pas vous spoiler ce qui va se passer à un moment donné.
Et incluso es lo que llevará pues, a un drama que no vamos a explicar para no desvelar el final.
En quoi est-ce que vous diriez que cette jeunesse que vous décrivez, qui apparaît aussi dans les deux romans qu'on évoque, cette jeunesse désorientée va néanmoins essayer de s'accrocher pour être dans la vie et pas toujours être dans la souffrance induite par leur quartier ou par leurs conditions.
Sí, como intentas escribir que esa juventud que a pesar de todo intenta agarrarse a la vida y seguir avanzando.
Bueno, creo que esto no es algo de exclusivo de la juventud. Bueno, no sé si aquí existe esa frase, pero en España utilizamos la frase de todo tiempo pasado fue mejor.
Alors, il fait référence à une phrase en espagnol, un dicton qui dit que c'était mieux avant. Voilà, también se utiliza aquí.
Entonces, siempre en la novela quería mostrar que esto es incierto, no todo tiempo pasado fue mejor, y de alguna forma tener esa mentalidad es lo que nos hace sufrir, que querer volver al pasado porque creemos que nuestro pasado fue mejor que lo que tenemos o lo que nos espera.
Et donc, il voulait démontrer que cette phrase de « c'était mieux avant » est fausse, et qu'effectivement, c'est la volonté de revenir systématiquement dans le passé qui volver al pasado.
Sí, que volver al pasado es lo que nos hace daño, ¿no? Querer.
Et c'est justement cette volonté de revenir systématiquement au passé, c'est ça qui nous blesse et qui nous fait mal.
Muchas veces en una conversación, cuando discutimos con una persona, cuando llegamos a casa decimos, le tenía que haber dicho, le tenía que haber hecho.
Y souvent, justement, cuando discute avec quelqu'un, après cette discussion, cuando on revient a la maison, souvent on a le réflexe de dire, j'aurais dû lui dire ça.
Y nos quedamos enganchados a ese pasado que ya sabemos que no va a poder ser.
Et on reste du coup accroché à ce passé qui ne pourra pas revenir.
Il y a, Marin, dans votre livre aussi, quelque chose qui est typique à la jeunesse, à cet âge que vous décrivez, à savoir la bande de copains qui sont presque comme des frères qu'on se choisit, auxquels on s'accroche. Mais néanmoins, vos personnages vont subir énormément de violences, qu'elles soient physiques, psychiques ou sociales. Contre qui ou quoi est-ce qu'ils se battent finalement ?
De manière très pragmatique, ils se battent contre le 77, je crois, contre le 77, contre le département. Ils se battent contre ce territoire peuplé d'ennui. Oui, je crois que c'est ça. Ils se battent avant tout contre l'ennui. Puis dans l'ennui naissent bien souvent les meilleures comme les pires choses. Et ils se battent contre quoi d'autre ? Ils se battent contre ces différentes injonctions. Lui, le personnage principal, l'injonction de devenir un vrai bonhomme, son ami, la fille Novembre, contre l'injonction à la féminité, le traître, qui s'appelle aussi Enzo. Le traître, lui, c'est quoi ? Il se bat contre lui, il est un peu aussi entre deux eaux, parce qu'il se retrouve avec lui, c'est un, comme dit le narrateur, c'est un fils de prof hippie laxiste. Et de Bobo, nouveau arrivant dans le 77. Et donc, il se bat entre ce qu'attendent de lui ses parents, à la fois de leur permettre d'intégrer un milieu nouveau pour eux, et puis de ne pas devenir quand même comme ces cutéreux. Donc, il se bat, je pense, entre ces différentes choses.
Ils se battent contre eux-mêmes aussi.
Oui, je parle que de mon propre cockpit, mais j'ai l'impression que chacun, on se bat contre soi-même. Donc c'est, enfin, je crois que c'est, ou alors ça m'est que propre. Et dites-le moi tout de suite.
Rassurez-vous.
Mais voilà, je crois que c'est commun à tous les personnages de tous les livres et tous les personnages de toutes les rues et de toutes les villes.
Mm-hmm. Mathieu, dans votre roman, la violence est également quotidienne. Et il y a justement cette question qui figure dans le livre. Est-ce que c'est un truc qu'on se transmet à la naissance ? Et pourquoi est-ce que Wilfried a tant besoin d'exprimer, d'expulser cette violence qu'il porte en lui ?
Je ne sais pas s'il a besoin de l'expulser. Hein, elle le déborde, en fait. Mais parce que la violence, en l'occurrence, chez les gamins que j'ai suivis, et Wilfried en particulier... C'est presque comme une émotion. C'est, je veux dire, c'est quelque chose qu'on ne comprend pas très bien, mais qui est là, qui monte et qui nous déborde, qui nous dépasse. La violence. À un moment, la question elle est posée de savoir si on se la transmet à la naissance. La question est plutôt de savoir est-ce qu'on apprend à être violent, parce que. Là, je vais citer un épidémiologiste que j'avais rencontré, parce que en 2014, j'avais fait un reportage, justement, la violence m'intéressait, notamment la violence des enfants, et j'avais voulu aller dans un endroit où je savais que la criminalité était bien, bien, bien plus élevée que celle qu'on a en France. Donc j'avais passé un peu plus d'un mois dans les quartiers sud de Chicago, avec des gamins qui, pour le coup, avaient quitté l'école à l'âge de 10-11 ans et rentraient directement dans les gangs qui sont encore très, très présents dans les quartiers sud de Chicago et qui gèrent en gros tout le trafic de drogue sur toute la partie des Grands Lacs aux États-Unis, mais même encore plus. Et c'est un taux de criminalité qui est inimaginable pour nous en France, avec des morts tous les jours, des blessés par balle tous les jours... toute la journée, on a des ambulances qui vont d'un hôpital à un autre pour amener des gamins. Et j'avais rencontré des mômes de 13 ou 14 ans qui avaient quitté l'école depuis déjà plusieurs années et qui avaient trouvé dans le gang une famille et qui avaient déjà acheté leur cercueil, par exemple. Ils disaient, moi, ce qui va m'importer, c'est... Je sais que je ne verrai jamais mes 18 ans. Ce qui va m'importer, c'est d'avoir un bel enterrement avec 1000, 2000 personnes qui vont venir... Et je veux un cercueil qui brille. Enfin, c'était assez désespérant comme reportage. Hein. Et, Et en fait, cet épidémiologiste que j'avais rencontré, qui s'appelle Gary Slutkin, qui est quelqu'un qui a beaucoup bossé sur les épidémies d'Ebola aux États-Unis, sur l'épidémie de sida aussi dans les années 80-90, il m'expliquait et il montrait que en fait, la violence était une maladie transmissible. Il avait écrit un livre d'ailleurs qui s'appelle Contagion of Violence, je le prononce sans l'accent parce qu'il est horrible, mon accent anglais. Mais, il expliquait ça, il expliquait qu'en fait, on ne naît pas violent, on le devient en y étant exposé. C'est-à-dire qu'un gamin qui grandit dans une famille avec le père qui tabasse la mère, il a beaucoup plus de chances qu'un autre gamin de faire la même chose après. Un gamin qui grandit dans un quartier où il voit des mecs se faire descendre à l'épicerie d'à côté, a beaucoup plus de chances un jour, soit d'en être victime, soit lui-même de s'armer. Et cette violence-là, quand on a 15 ans, on ne peut pas forcément la comprendre. Mais elle est là, elle grandit en nous, un peu comme une maladie, quoi. Et c'est un aspect aussi, juste, je ne vais pas être trop long, mais c'est un aspect que je voulais, même si c'est une violence qui est bien moindre que celle que j'ai vue à Chicago, c'est quand même une violence qui ne vient pas de nulle part. Et en ça, je voulais que ça apparaisse aussi dans le livre.
Ce qui est important aussi, parce que comme ça, on n'en termine pas que sur des notes négatives, c'est que dans vos trois romans, il y a aussi de la lumière qui apparaît. Elle a le visage, Marin, dans votre livre, de la fille novembre que vous évoquiez là tout à l'heure, qui sort du lot de cette bande de garçons. Pourquoi est-ce que la femme, la fille, et peut-être j'ai envie de dire l'amour, sont comme une langue étrangère pour ce garçon-là, pour votre héros? Et en quoi est-ce que ça demande du courage d'apprendre à se regarder, s'écouter, se comprendre et s'aimer?
Alors, ce personnage-là, il m'était essentiel parce que je m'étais rendu compte à un moment donné en repensant aux livres que j'avais lus quand j'étais ado, les quelques livres que j'avais lus et que j'étais enfant. Je m'étais rendu compte que la plupart des livres que j'avais lus étaient des livres dont le personnage principal était un homme. Et j'ai eu aucun travail en fait d'identification à faire. Et d'ailleurs, le seul livre que j'ai très vite lâché, c'était le truc des mondes. C'était avec un personnage qui s'appelle Lyra. Je sais plus le nom, mais et je sais plus comment. La croisée des mondes. Merci.
Merci.
Et c'était La croisée des mondes, et je crois que si je l'ai lâché aussi vite, c'est parce que le personnage principal, c'était une fille. Et j'avais aucune capacité de me dire, ah ben, elle, c'est moi. Et en discutant avec des amis IE, elle me disait qu'elles avaient très bien lu Harry Potter et qu'elles ne s'étaient pas identifiées à Hermione. Elles étaient à la fois Hermione, Harry, machin, bidule. Moi, j'étais toujours identifié au personnage principal, parce que je n'avais jamais eu à faire ce travail-là. Et je me suis dit, putain, quand même, dans la littérature, on a, mine de rien, beaucoup de personnages, enfin comme dans le cinéma en fait, de personnages féminins, c'est des faire-valoir. C'est toujours des personnages au second plan. Et La fille novembre, c'est pas le narrateur, mais pour moi c'est quasiment le personnage principal. C'est elle qui tire le roman. Vous parliez d'amour, je sais pas s'ils s'aiment, je sais pas si, j'en sais rien. Je crois que ça leur appartient. J'ai essayé aussi de garder beaucoup de pudeur et d'aimer mes personnages et de les respecter assez pour qu'ils aient pas à dire ce genre de choses s'ils ne se sentaient pas de le dire. Je sais pas s'ils s'aiment. Par contre, il y a un autre personnage féminin qui, je crois, est décisif. C'est le personnage de la Parisienne, qui, elle, la Parisienne, elle a emménagé dans le 77 pour avoir un bout de terre à elle, avec un peu d'air, quoi. Et elle a vu avec beaucoup de mépris comme étaient vus les Parisiens qui emménageaient près de chez moi quand j'étais môme. Sauf que bah, la Parisienne, c'est pas en fait le fait qu'elle soit parisienne, c'est pas ça, mais c'est le fait que c'est le point de vue extérieur. Et par ce point de vue extérieur, ce truc qui est totalement qui appartient pas du tout à cette terre du 77 et que lui il vit pas comme un truc, fait pas partie des meubles, fait pas partie de la boue. Et donc du coup, ce qu'elle va dire à un moment donné où il est prêt à entendre va avoir beaucoup plus de sens. Et effectivement, c'est ce truc de s'aimer soi.
Agustín, dans ce roman, il y a une grande solitude.
En tu novela hay mucha soledad.
Mais il y a aussi un personnage féminin qui est important, qui a un nom particulier. En tout cas, elle est baptisée par le personnage comme ça. C'est Yes, Si. Yes, Si, parce qu'elle dit toujours Yes, oui, et Si en espagnol.
Hay un personaje importante, un personaje femenino, que es el personaje de Yes, Si.
Elle vient donc illuminer ce livre, cette solitude. En quoi est-ce que l'amour, en quoi est-ce que un personnage comme celui-là peut être salvateur?
En qué el amor o un personaje como el de Jesse puede ser salvador?
Bueno, digamos que el personaje de Jesse es una metáfora de la clase media.
Donc, avant tout, le personnage de Jesse, c'est un peu une métaphore de cette classe moyenne.
Et c'est le moteur et l'espérance qui impulse le narrateur à continuer narrando.
Et c'est le moteur qui impulse un petit peu et qui permet au narrateur d'avancer.
Creo que el amor como concepto o el amor como sentimiento es un motor en todos nosotros.
Y que el amor en chacun de nosotros es un poco un concepto que nos permite avanzar.
Porque no solamente existe el amor hacia una persona, sino también existe el amor al dinero, el amor a la riqueza, el amor a los objetos.
Parce qu'il n'y a pas seulement l'amour envers les autres, mais aussi l'amour de l'argent, l'amour des objets, l'amour plus matérialiste.
Entonces todos sentimos amor hacia algo o alguien y es lo que nos impulsa a continuar y lo que nos da esperanza a seguir viviendo y a seguir evolucionando.
Et finalement, on a tous un amour soit aux personnes, soit aux objets qui nous amène à avancer et à avoir l'espérance en l'avenir.
Aunque el amor también no deja de ser siempre el amor hacia una persona o hacia un objeto no deja de ser una relación de poder. Siempre hay uno que un sumiso y una persona que la que posee.
Mais que l'amour, que ce soit envers une personne ou un objet, ça reste toujours un rapport de soumission. Il y a toujours un soumis et voilà.
Agustín nous parlait d'espoir et la dernière question, elle est pour vous parce que c'est aussi un livre plein d'espoir. On parlait des personnages féminins, là aussi on a une qui est essentielle, qui est celui de Nina, cette éducatrice qui travaille avec Marc. Marc qui quelque part est un hommage et un clin d'œil à votre père qui a travaillé à la PJJ, à d'autres personnes que vous évoquez à la fin du livre. Et il a cette phrase magnifique où il dit « Je voulais changer le monde, aujourd'hui j'essaye juste de ne pas l'abîmer ». Est-ce que c'est ça aussi que vous voulez nous transmettre à travers ce livre? Et en quoi est-ce que la littérature peut-être, si pas changer le monde, en tout cas essayer de l'améliorer un petit peu?
Je vais faire vite. C'est un peu un hommage, oui, à ces métiers de l'humain. Ma mère, elle est institutrice. Mon père a travaillé comme éducateur à la PJJ. Et toute leur vie, je les ai entendus quand même se plaindre, mais sans vraiment se plaindre, parce que je savais qu'ils ne pouvaient pas faire un autre métier que cela, mais quand même se plaindre du manque de reconnaissance. Du fait qu'ils soient tout le temps vus comme des fonctionnaires qui, du coup, étaient forcément des gens qui n'en foutaient pas une, avaient beaucoup de vacances. Enfin, vous voyez, hein, vous entendez un peu cette discours. Et en fait, bon, moi, je n'ai pas du tout écrit ce bouquin pour défendre mes parents. Ils s'en foutent, d'ailleurs. Mais quand je me suis retrouvé sur place au milieu de ces éducateurs, j'ai vu des gens qui étaient très, très mal payés. Moi, à l'époque, j'étais encore salarié de mon journal. Et j'ai aucune pudeur à dire combien j'étais payé. Je gagnais 2 800 € par mois et j'avais même pas 30 ans. Et j'avais face à moi des gens qui en avaient 50, 55, qui gagnaient 1 800 € par mois pour réparer des enfants. Le réparer mettait beaucoup de guillemets autour de ce mot, qui n'étaient pas les leurs. Des enfants qui arrivent, qui sont déjà cabossés par la vie, qui n'ont aucune envie de vous rencontrer. Et vous devez déployer des monceau d'énergie pour essayer juste de rentrer en contact avec eux, accepter qu'ils vous regardent dans les yeux, machin. Et ça, pour moi, c'était j'avais un peu honte de leur dire, mais je leur ai dit quand même. J'ai dit, moi, je trouve que c'est un peu... Il y a quand même un truc qui déconne de, sur le fait que... Bon, c'est pas que moi, je sois payé non plus incroyablement trop, mais je trouve qu'il y avait un problème quand même. Et en ça, c'était important de, d'une certaine manière, leur rendre hommage, parce que c'est des métiers qui vous impactent émotionnellement, qui sont très humains, très, très importants, et qui sont, je pense, pas respectés et dénigrés depuis un certain nombre d'années.
Alors, on me fait des grands signes, donc on ne va pas pouvoir prendre les questions du public. Par contre, ce que je vous propose, pour que vous ne soyez pas frustrés parce que vous en avez sûrement, c'est qu'évidemment, nos trois écrivains restent dans les lieux pour signer leurs livres et aussi pour écouter vos questions ou dialoguer avec vous si vous le souhaitez. En tout cas, merci. Merci beaucoup. Pardon ? À l'espace dédicace, voilà exactement. En tout cas, merci beaucoup à vous trois. Merci pour la traduction. Muchas gracias. Et merci à vous.
Merci.
Merci.